Et alors justement, parmi les plein plein d'autres choses, je vous en ai apporté quelques-uns qui sont vraiment, alors là, d'accès beaucoup plus facile. Moi, j'utilisais aussi ça, l'introduction au Père de l'Église. Alors vous voyez, c'est un petit volume avec des images en couleur. Et qui présente les pères d'Orient et d'Occident, les pères de l'Église, avec des extraits de leurs œuvres. Alors parfois une petite demi-page d'un texte de. Vous voyez par exemple là, un texte de Saint-Hilaire
De la guerre
de
des Michards des
Poitiers.
Pères.
Comment?
C'est une sorte de la guerre des Michards des Pères.
Oui, voilà.
C'est quel éditeur?
Alors l'éditeur, ce sont les éditions Pauline, ou les éditions Médiapol.
Elles existent encore?
Médiapol. Ah oui, c'est à côté d'ici.
Ah oui? Avant, c'était rue Madame, mais je crois que
c'est rue Lafayette.
Ah, peut-être que ça a changé, oui.
Rue Lafayette, ah d'accord.
Ah oui.
Oui, et puis rue Dufour aussi.
Il me semble qu'on me demande des livres.
Donc ça, c'est un ouvrage assez intéressant, facile d'accès, d'un certain Pierre Béatrick. Je ne suis pas persuadé que ce soit encore édité. Hein.
Mais il y a un père, un nom impossible, Pizzavara, nom polonais, qui avait fait un texte sur Saint-Augustin avant-guerre.
Ah oui, Abdullah, c'est un
C'est un
jésuite.
nom impossible, ce père Pizzavara.
Oui. C'est un nom où vous pouvez gagner au Scrabble. Parce qu'il y a un Z, il y a un Y, il y a un W.
Mais il n'y a qu'un seul Z au Scrabble.
Non, mais je disais parce que ce livre avait été envoyé sur la ligne du front par ce Fischer, là, son copain, pour le.
Ah oui,
et c'est là qu'il a un peu changé de bord, dirons-nous. Enfin, pas changé de bord, mais que ça l'a travaillé.
Ah oui.
En pleine guerre, voilà.
Ah oui. Donc voilà, en tout cas, Pchuvara, qui était aussi un historien du dogme, un jésuite qui enseignait. C'est un jésuite allemand, en fait, même s'il était polonais.
Enfin, non, impossible.
Oui. Alors, voilà, introduction au Père de l'Église. Si vous le trouvez. Tant mieux, hein, c'est un bon ouvrage. Bon, ça, c'est un exemple de. Et alors, pourquoi pas ces deux-là, au fait, je n'y avais pas pensé l'autre fois. Benoît XVI a fait une série de catéchèses, de ces catéchèses du mercredi, sur des auteurs chrétiens. Et donc chaque audience du mercredi était consacrée à un auteur, parfois pour les auteurs les plus importants, plusieurs séances. Alors, vous les avez, je crois, dans plusieurs éditions différentes. Moi, j'ai celle de Salvatore. Voilà, ça s'appelle Les bâtisseurs de l'Église. Alors,
il a fait sur les pères de l'Église.
Il a fait sur les pères de l'Église un petit ouvrage
qui
a une page et demie par.
C'est ça, résumé.
Ah non, il est plus petit.
Non, non, parce qu'il y a plusieurs éditions.
Ah, mais
Salvatore a fait un truc. Oui, mais là c'est écrit.
Aussi.
Mais c'est toujours édité. C'est toujours
ah oui, édité. Oui, ça c'est édité.
Vous allez chez Gibert, on les trouve partout.
Oui, ceux-là ils sont.
Très bien, d'ailleurs.
Donc le premier s'appelle Des apôtres à Saint-Augustin. Donc vous voyez, ça va jusqu'au 5e siècle. Et puis le second, Les bâtisseurs de l'Église, donc deuxième volume, ça va de Léon le Grand au 13e siècle, en gros. Donc. La moitié ou les deux tiers, ce sont des auteurs patristiques.
Qui c'est ça?
Et les derniers sont des auteurs du Moyen Âge. Du haut Moyen Âge. Oui, c'est Bonaventure. Non, peut-être pas.
C'est Saint Thomas.
Avec une église comme ça?
Pourquoi ils ont appelé une église?
Il n'était pas représenté. C'est un dominicain en tout cas. C'est peut-être Saint Vincent Ferrier, je ne sais pas.
Il n'est pas marqué.
Non, c'est marqué, c'est genre de formation.
Et puis, comme je vous rappelais. Ce volume qui vient de sortir de la Pléiade, qui s'appelle les
Ah oui, c'est bien avec vous. Mais non, ce ne sera pas bien comme ça.
Les premiers écrits chrétiens, qui va jusqu'à peu près au 3e siècle. C'est vraiment qu'une partie de la. Mais les premiers écrits, les premiers siècles, finalement, les auteurs étaient peu nombreux. Ils ont écrit des œuvres qui sont parfois. Enfin, beaucoup d'œuvres ont été perdues. Et donc, finalement, on a quand même, dans ce volume, une bonne part de la première littérature chrétienne. Alors que, plus tard, si vous voulez mettre Saint-Augustin en Pléiade, je crois qu'il faudrait plusieurs volumes, rien que pour lui. Hein.
C'est écrit gros dans la Pléiade pour une fois.
Non, c'est écrit petit. Enfin, c'est pas si petit que ça.
Non, c'est pas trop lourd.
Non, ça va.
Oui, c'est plutôt pas mal.
Le livre de Bruce, oui, il est pour le bras.
Ah oui.
Celui de l'Espagne. Est-ce que Saint-Augustin est en Pléiade de Malpica?
Eh bien, ça, je ne sais pas. Il me semble que si. Alors, ça doit être probablement des œuvres. Oui, une sélection. Hein. Ça peut pas être la totalité.
Pourquoi Boès, il était.
Boès. Oui, il est considéré comme père de l'Église.
D'accord.
Boès et Cassiodore, on peut dire, ce sont les derniers pères qui produisent des choses. Et après, on aura les derniers sont en fait des compilateurs. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a toute une période qui ne produit plus vraiment, mais qui va compiler. C'est-à-dire, vous voyez, compiler, c'est résumé. Hein. Voilà pour l'introduction. Alors, on va passer à au premier chapitre. Que j'ai intitulé « Les pères dans l'Empire païen ». Donc « Les pères dans l'Empire païen ». Donc ça nous resitue bien le christianisme. Hein. Le christianisme est né où ? Il est né dans l'Empire romain. Dans une de ses provinces orientales, et c'est dans le cadre politique de cette civilisation cosmopolite que le christianisme va se développer pendant ses trois premiers siècles d'existence. Il débordera un peu vers l'Est pendant ces siècles-là, mais pas d'une manière très significative. En tout cas, pas très significative non plus pour la pensée. Et au terme de cette période, par un retournement inattendu, eh bien, ce même cadre va lui offrir des perspectives plutôt nouvelles, hein, avec le retournement constantinien. Alors, on peut distinguer trois périodes, distinguer trois périodes qui correspondent, si on veut, à trois types d'attitudes dans ces trois premiers siècles. Alors, la première période, elle court de la deuxième moitié du premier siècle jusqu'à la première moitié du deuxième siècle. Centaines d'années, en gros. Donc, de la production des écrits bibliques du Nouveau Testament jusqu'à cette première moitié du IIe siècle, qui est l'apparition d'une littérature encore proche de la littérature biblique, notamment par les apocryphes, mais qui commence à s'en distinguer. Les auteurs cherchent à se distinguer du judaïsme et des tendances gnostiques du judéo-christianisme, c'est-à-dire du premier christianisme, le christianisme palestinien, si vous voulez. Alors, on a assez peu de textes, hein. Ça, on peut en faire vite le tour. Et puis, deuxième période, c'est la période des pères apologètes. En gros, de la deuxième moitié du deuxième siècle, hein, jusqu'à la première moitié du troisième siècle, encore un siècle, si vous voulez. On peut dire que l'Église a grandi, elle a pris conscience d'elle-même, et elle va entrer en dialogue avec la civilisation qui l'entoure, cherchant à dissiper les malentendus dont on pense qu'ils sont les causes des persécutions, cherchant à convaincre, à persuader de la vérité du christianisme. C'est donc la période des apologies. Là encore, c'est une littérature, finalement, il y a encore peu d'auteurs chrétiens, et c'est une littérature dont on fait encore assez vite le tour. La majeure partie, elle est encore dans ce bouquin-là, comme la première partie.
Il y a des bons arguments.
Oh oui, il y a des bons arguments, oui. Comme dans le... c'est précisément comme le film, là. Hein, et notamment, les auteurs chrétiens vont devoir se défendre contre les ragots inventés par les païens pour justifier les persécutions. Et la troisième période... ce sont les pères anténicéens, donc qui précèdent le concile de Nicée, c'est-à-dire en fait jusqu'au retournement constantinien. Hein, autrement dit, on peut dire le IIIe siècle et une partie du IVe siècle. Et là, quel est le fil conducteur? Eh bien, c'est que l'Église, ayant en contrepoint la pensée religieuse juive et païenne, va réfléchir sur le contenu de la révélation. Alors, dans plusieurs perspectives. D'abord, pour lutter contre les déviations qui commencent à apparaître en son sein, et pour répondre aussi à des questions nouvelles qu'elle se pose. Et si bien que ces auteurs... de cette troisième partie, sont en fait les premiers vrais théologiens. Voilà. Les autres aussi sont théologiens. Mais là, voilà, c'est une réflexion sur, sur la doctrine, on pourrait dire, ad intra. Voilà pour l'introduction de ce chapitre. Alors, abordons la première section, les pères apostoliques. Alors, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des auteurs, parfois anonymes, qui correspondent aux premières générations chrétiennes et dont les écrits ont été, parfois, intégrés par certaines communautés dans le canon même des Écritures, vous voyez ? À l'époque où les écritures du Nouveau Testament sont elles-mêmes en formation, et on peut même dire de l'Ancien, parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu des textes, évidemment les textes en hébreu, en araméen un peu aussi, et puis des textes grecs. Et finalement, ceux qui vont survivre aux guerres, aux révoltes juives du 1er siècle et du début du 2e, ce sont les pharisiens qui ne s'étaient pas mouillés. Et les pharisiens, eux, étaient plutôt partisans de l'élimination des textes grecs de leur tradition. Et en même temps, c'était l'époque... donc, ils vont fixer le canon des écritures juives, vous voyez, à la fin du 1er siècle, à peu près à la période où nous, on finit la rédaction des derniers écrits du Nouveau. Et en même temps pullulait à cette période ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire une foule de textes apocalyptiques alors qui ont parfois été repris par les chrétiens, parfois été accueillis par les juifs, et qui finalement vont être un peu rejetés des deux canons. Donc vous voyez, il y a une grande incertitude sur ce qui est l'écriture à l'époque de la fin du 1er siècle. Alors, ces auteurs chrétiens contemporains des auteurs du Nouveau Testament vont utiliser un genre littéraire qui relève souvent du genre littéraire biblique canonique, hein, en fait. Ils vont écrire des... Alors, on peut appeler ça une littérature para-apostolique. Hein, ça ressemble... c'est une littérature qui est à côté de la littérature apostolique. Elle lui ressemble. On utilise les mêmes genres littéraires. Parfois, on va utiliser même les noms des mêmes auteurs pour se donner plus d'autorité. Hein, vous vous cachez derrière un Saint-Pierre ou un... etc. Voilà. Alors, c'est une littérature qui ne sera pas reprise, on verra pourquoi. Donc ça, c'est un petit peu pour vous situer ce premier siècle d'écriture chrétienne, hein, de 50, à peu près, vous savez, les gens ne sont toujours pas d'accord sur la datation des écrits du Nouveau Testament. Hein. Bon, en gros, 50, c'est la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Voilà. Et puis, il y a pu y avoir, par exemple, Saint Jérôme nous dit que Saint Matthieu, avant qu'on ait son évangile en grec, il l'avait déjà écrit en hébreu. Donc, il y en a qui pensent que il y a un Matthieu plus ancien, etc. Bon, enfin, d'un autre côté, la Pentecôte, c'est 1930. La Pentecôte, c'est l'année 30. Voilà, c'est l'année 30.
C'est les années 30.
Oui. Voilà, c'est les années 30. Donc, vous voyez, Saint Paul, la première lettre qu'on a de Saint Paul, c'est 50, c'est à peine 20 ans après. Alors, 20 ans, c'est beaucoup pour les plus jeunes, mais pour nous, hein, c'est pas si vieux que ça. Donc, finalement, cette littérature, elle arrive assez vite. Et comme dit Saint Paul, d'ailleurs, dans une de ses lettres, il parle des manifestations du Christ au ressuscité, en disant il est apparu à Képhas, il est apparu aux apôtres 11, il est apparu à 500 disciples à la fois, et à moi à la fin. Et parmi les 500, il dit dont certains sont déjà morts.
Ils sont encore vivants.
Voilà, ou sont encore vivants. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y en a déjà qui sont déjà morts. Ce qui signifie que les témoins oculaires disparaissant vient le moment, en quelque sorte, du recueil de leur témoignage et donc de la cristallisation de l'écriture, en somme. Et c'est pour ça, peut-être que pendant 20 ans, parce qu'aujourd'hui on écrit facilement, mais à l'époque on n'écrivait pas. Hein, les supports étaient rarissimes, très coûteux, etc. On n'écrivait pas, on transmettait par la parole. Et puis, au moment où on perçoit que ça devient quand même difficile, eh ben, on va écrire, notamment parce que, par exemple, pour l'évangélisation, il fallait des aides-mémoires, par exemple, pour les paraboles, pour les paroles du Seigneur, etc. Donc, il fallait avoir quand même des listes ou des recueils, en quelque sorte, qui rappelle, donc voilà, et ça progressivement ça va devenir les évangiles. Oui. Donc avant qu'on ait nos premiers écrits canoniques du Nouveau Testament, il y a certainement eu des fragments, comme on dit, des écrits qui ont circulé et puis ensuite qui ont été repris et qui à un moment sont devenus canoniques. Oui. Alors le premier paragraphe, donc cette littérature para-apostolique. Alors, c'est évidemment après coup qu'on rajoute le para, hein, évidemment, qu'elle a été retenue comme telle. Parce que lorsque ces écrits n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures, ben on s'est dit, ben voilà, ils ont quand même une valeur, mais en même temps, ils ne sont pas inspirés. Hein, parce que ce qui est canonique, c'est ce qui est inspiré par le Saint-Esprit. Alors parfois il a fallu plusieurs siècles puisque le canon n'est définitivement fixé qu'au IVe siècle. Vous voyez. Donc jusqu'au IVe siècle, il y a des livres que qui sont dans nos Bibles qui n'y étaient pas et d'autres qui étaient considérés comme la Bible mais qui ne le sont plus. Ah oui. Et ça dépendait des lieux. Hein. Chaque église avait sa collection de livres, la plupart du temps très proches les uns des autres. Et à un moment ou un autre, ben justement, avec le tournant constantinien, lorsque les évêques vont pouvoir communiquer plus facilement, ils vont confronter les écrits qui font autorité dans leur communauté et vont s'apercevoir que, par exemple, telle communauté est un peu borderline, parce qu'elle accueille tel livre qu'aucune autre ne connaît, et donc on considère que finalement c'est peut-être pas inspiré. Par contre, on remarque que tel livre qui manque dans une communauté, il se trouve accueilli dans toutes les autres, alors du coup la communauté qui l'a pas, ben, elle l'accueille dans sa collection. Voilà. Et en gros, c'est à la fin du IVe siècle qu'on aura un canon qui sera repris par le Concile de Trente en 1546, lors de la quatrième session, le décret sur l'écriture sainte.
Que c'est là où il sera définitivement validé ?
Oui.
Par avant ?
Si, mais pas par un concile œcuménique, par des conciles provinciaux, notamment d'Afrique du Nord.